Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À Poil. Je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast et aujourd'hui je reçois Claire Berger-Lefranc et Marie Falcon de Longevial du traiteur Chicken Bacon Lettuce.
Avec Marie, on se voyait encore très souvent et il est vrai que je ne me voyais pas m'associer avec quelqu'un d'autre qu'elle. On avait travaillé ensemble et on se complétait, on se complète toujours très très bien. C'est-à-dire que chacun a son pôle de compétences et c'est agréable de travailler en équipe avec quelqu'un qui a déjà la même implication, la même force de travail, la même envie et qui avec qui on se comprend et on a la même vision. Donc, j'ai proposé à Marie de s'associer avec moi. C'était un peu comme une demande en mariage.
Et elle a dit oui.
Non, elle m'a fait poireauter 3 mois.
Mais
Elle a fini par dire oui.
Depuis 2015, Claire et Marie révolutionnent, n'ayons pas peur des mots, le secteur du traiteur avec leur Chicken Bacon Lettuce. Du statut de chef indépendante de leur début à celui de chef d'entreprise de cette marque jeune et forte, elles ont réussi à rendre les petits fours sexy et à réenchanter les buffets, que ce soit pour une clientèle pro ou des particuliers. Au-delà de leur cuisine, toujours délicieuse, je les admire aussi pour la façon dont elles mènent leur barque, avec bienveillance, humilité et modernité. Avec Claire et Marie, nous avons parlé de DJ, de moteur et de rougaille aubergine. Bonne écoute. Bonjour Claire, bonjour Marie.
Bonjour Julie.
Bonjour Julie.
On avait fait un épisode confinerie avec Claire pendant le confinement, mais aujourd'hui je suis contente d'enregistrer ce vrai épisode avec vous deux. On s'est rencontrées toutes les trois dans les bureaux du Fooding avant que l'idée de Chicken Bacon Lettuce naisse, enfin ou en tout cas quand il était en une petite graine dans la tête de Claire. Études de droit pour Claire et école hôtelière pour Marie, vous êtes pas mal cherché avant de lancer ce traiteur.
Oui. Enfin, j'ai passé. Moi, je viens pas d'une famille de restaurateurs, d'hôteliers. Le milieu de la restauration était assez loin en fait de mon éducation et des possibilités de métier qui s'offraient à moi. J'ai fait un bac classique ES et j'ai fait du droit. Parce que le droit menait à tout à l'époque, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Effectivement, j'ai pas fait grand succès, grand fracas en études de droit. mais j'ai beaucoup travaillé dans la restauration pendant mes études et c'est là que ça m'a un peu ouvert cette voie.
Et qu'est-ce qui t'a décidé à un moment de te dire je me lance là-dedans?
J'ai fait un master de droit à Assas. Je devais faire un master 2. Très honnêtement, j'ai été prise nulle part. et j'avais envie de continuer vraiment plus dans l'hôtellerie, dans la restauration. J'avais travaillé pendant mes études chez Darossa, par exemple, où je travaillais en épicerie fine. J'avais fait d'autres petits boulots en tant que serveuse. Je travaillais aussi l'été en tant que bénévole sur un festival de musique qui s'appelait Ballet à Pop, où mine de rien, je faisais un peu le catering du festival sans m'en rendre compte. Donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et après ce master, j'ai voulu m'orienter vers une école hôtelière, faire un master en management de la restauration et de l'hôtellerie. Et à cette époque-là, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, pour rentrer dans ce master, quand vous n'avez pas fait d'autres études, en hôtellerie, ils vous demandent un an d'expérience professionnelle en restauration, un an en hôtellerie. Du coup, dans cette idée-là, je suis rentrée chez Christian Constant, où j'ai travaillé pendant un an. Et là, ça a été un peu la révélation pour moi.
Et toi, Marie ?
Moi, j'ai toujours voulu être chef depuis que j'étais petite. J'ai jamais voulu faire vraiment autre chose. Du coup, je travaillais dans le restaurant de mon village, en cuisine tous les étés, en me disant « je vais mettre des petits sous et puis quand j'aurai plein de sous, j'ouvrirai un jour mon restaurant ». Et puis j'ai passé mon bac de manière plus classique parce que j'avais mes parents derrière et c'était pas une mauvaise chose non plus. Et après je me suis dit ok, chef c'est cool, mais c'est bien aussi de voir un peu tous les autres métiers qu'il y a dans l'hôtellerie-restauration. Donc j'ai fait une école hôtelière qui m'a un peu ouverte d'esprit sur le fait qu'il y avait la cuisine, mais il y avait plein d'autres choses que j'aimais, et je pense que j'aimais surtout le contact qu'on peut avoir avec les gens dans ce milieu-là, donc que ce soit tant à la réception, tant qu'au service, tant que gérer les chambres, que faire plein de choses là-dedans. Et puis j'ai commencé mon expérience dans une agence qui faisait du consulting en marketing dans ce secteur-là. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans et puis après j'ai voulu ouvrir mon restaurant avec un concept, ça a mis 1 an. C'est tombé à l'eau, c'était pas une mauvaise chose. L'idée c'était pas vraiment de faire de la cuisine, c'était d'avoir un point relais, c'était dans Paris, trouver un local plutôt dans les centres style opéra, quoi faire là-bas, et en fait de prendre 3 restaurants, d'avoir des restaurants partenaires tous les mois qui nous livraient leur plat du jour et nous on le revendait en faisant de la com sur ces restaurants-là pour que les gens y aillent. C'était très conceptuel, peut-être un peu trop. C'était assez chouette. En tout cas, il fallait faire les business plans, fallait trouver le local, fallait rencontrer pas mal de restaurants. Donc c'était très cool, mais bon, on n'y est pas arrivé. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler au Fooding pendant 3 ans en tant que chef de projet sur des événements. Là, je me suis quand même... C'était une très bonne école. J'ai rencontré beaucoup de monde. Quoi. Je me suis vraiment régalée avec des beaux événements. Et puis au bout de 3 ans, j'ai rencontré Claire là-bas. Et qui a monté Chicken Bacon Lettuce et qui, au bout d'1 an, m'a proposé de s'associer avec elle. Et voilà, et c'est arrivé comme ça et c'est cool.
Et donc aujourd'hui, s'il manque une chef en cuisine, t'es capable de la remplacer ?
Moi ? Ouais. Je pense que ouais, je peux y arriver.
C'est marrant.
J'y arriverai. C'est marrant. Pour la journée, pas pour le reste, mais en tout cas, oui, je pense que j'ai les petits gestes qu'il faut.
Qui restent.
Exactement.
Donc, Claire, toi, dans ton parcours, t'as continué ton apprentissage en cuisine.
Oui, j'ai travaillé donc chez Christian Constant au Café Constant. J'ai été chef de rang, puis j'ai commencé la cuisine en fait par hasard là-bas. Un jour où il fallait un petit peu dépanné bizarrement parce qu'il manquait du staff en cuisine. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est complètement pour moi ça. Je viens d'une famille où on cuisine quand même beaucoup, j'ai une maman qui cuisine énormément, je viens d'un coin de la France où il y a un terroir assez riche, où il y a l'amour du produit infini, je viens du Pays Basque. Et puis j'adore manger, donc je pense comme un peu tous les cuisiniers qui aiment manger, qui aiment créer, qui aiment partager, qui aiment se retrouver. Donc pour moi c'est vrai que c'était quelque chose d'assez naturel. J'ai pas eu tout de suite conscience de l'implication du travail qu'il fallait avoir là-dedans. Je l'ai trouvé en fait chez Constant. J'ai compris à quel point il fallait être impliqué, travailler, courageux, lève-tôt, pas compter ses heures et ça. Et finalement, je l'ai fait de façon assez naturelle.
Plus qu'en salle.
Plus qu'en salle. Et ça m'a énormément plu. Et
t'es retournée en salle d'ailleurs ou
pas? Oui, oui. Après, je suis retournée en salle. Je suis partie à Londres ensuite après 1 an chez Christian Constant dans l'objectif de travailler en hôtellerie.
Au final, je suis arrivée là-bas, j'avais un anglais tellement foireux que on m'a proposé de faire les chambres et tout ça, donc j'étais pas prête à faire ça, je dois le dire.
Commis, oui, mais pas...
Bon, en fait, oui, je pense que déjà, j'avais la passion de la cuisine et l'envie d'en faire, donc du coup, je me suis orientée dans un petit déli où on faisait des cafés, des salades, des bons gâteaux, un peu dans le style Ottolenghi, avec une grosse inspiration de cuisine végétale, un peu de cuisine végane aussi, ce genre de choses. C'était en 2012. Et puis je suis rentrée à Paris pour faire un CAP de cuisine. Voilà, j'ai dit on oublie le master en école hôtelière. Je me suis affirmée auprès de mes parents en leur disant voilà, je pense que là il faut vraiment que je passe à autre chose et que j'aille vraiment dans la cuisine. Qui me plaît en fait. J'ai envie de faire un métier manuel, donc j'ai fait un CAP de cuisine en alternance. Voilà. Un peu surpris au début. Je dois dire que après des études de droit et vraiment nous c'était pas spécialement une option ou quelque chose qu'on voyait. On n'avait pas, enfin mes parents n'avaient pas de cousin chef, donc enfin c'était pas dans nos références. Un peu surpris, mais ils m'ont encouragé, ils m'ont laissé faire. Et l'avantage de l'alternance, c'est quand même qu'on se lance, mais on se lance pas à vue. Enfin, on gagne un peu sa vie aussi. C'est pas la même chose que d'entamer des études, oui. Des études de droit, de médecine ou voilà, pas voilà. C'est pas la même chose. Donc j'ai fait un CAP qui m'a plu. Hein. J'ai passé mon examen, je l'ai eu. Après mon apprentissage n'est pas hyper bien passé. Voilà, je me suis pas totalement retrouvée dans l'ambiance brigade assez toxique, anxiogène. J'avais un chef.
Clairement, t'as été harcelée.
Clairement, j'ai été harcelée. Voilà, c'était pas encore l'époque de MeToo, c'était 10 ans avant, mais c'était tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui sur les violences en cuisine.
T'as quasiment failli arrêter, d'ailleurs, après cette expérience. Enfin, t'as arrêté, on peut dire.
J'ai arrêté, mais pas dégoûtée, pas dans l'idée d'arrêter complètement la cuisine. Ça a mis du temps à ce que je m'arrête parce que j'avais des doutes sur moi, sur ma capacité à prendre la réalité du métier comme il était. Parce qu'à l'époque, on se posait pas toutes ces questions, en se disant c'est pas normal ce qui se passe. Ça peut pas se passer comme ça dans une cuisine. On peut pas vivre une humiliation tous les jours constante avec la dose de travail qu'on a. J'ai eu des doutes sur moi et à un moment donné, non, en fait, le corps a agi, la tête a réagi. J'ai arrêté brutalement. Je me suis posé la question de me dire, est-ce que vraiment c'est fait pour moi ce milieu-là ?
En fait, tu t'es remis en question toi en te disant, est-ce que je suis capable de résister à ça alors que c'est les autres qui devraient changer ?
Est-ce que je suis capable à résister à cette pression ? Est-ce que je suis capable de résister à cette fatigue ? Est-ce que je suis capable de tout ça ? En fait, oui, je suis très endurante, je travaille énormément, il n'y a pas de souci. C'est plutôt ce milieu qui est complètement vrillé et qu'il faut reformer.
Qui doit changer.
Qu'il faut reformer totalement. Mais j'avais pas vraiment envie d'arrêter la cuisine, je pense. J'avais juste envie de le faire autrement et j'avais envie qu'on me montre les façons de le faire autrement. À l'époque, je pensais qu'il fallait, pour être chef cuisinier, il fallait avoir son restaurant, sa brigade, essayer de gravir les échelons, essayer de grappiller les étoiles et de pouvoir avancer comme ça, alors qu'en fait, pas du tout.
Il y a d'autres modèles ?
Il y a d'autres modèles, oui. Et c'est d'autres chefs qui l'ont montré. Et cette voie aussi du traiteur, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Voilà, cette indépendance-là.
C'est ça, c'est belle. C'était la liberté. Enfin, tu l'as créée par...
Je l'ai créée par opportunisme un petit peu au début, ouais. On va dire. J'ai eu l'opportunité, en fait, par des amis qui travaillaient dans le milieu de la mode de faire des buffets, des événements pour eux, tout simplement parce qu'ils sont venus me voir en me disant bah, c'est vraiment, on se régale hein, quand tu nous fais à manger, ta cuisine elle est bonne, donc tu veux pas me faire tel buffet, tel événement. Alors oui, pourquoi pas, je me suis lancée un petit peu comme ça par hasard.
Chef indépendante.
chef indépendant. Et il y en avait, bah il y en avait peu à l'époque quand je me suis lancée. Il y en avait très peu. Maintenant il y en a plein qui gravitent tous les jours et c'est très bien. C'est très très bien. Mais au début oui il y avait peu de monde.
Donc tu commences à faire quelques événements à la demande des copains et petit à petit tu te rends compte que c'est une nouvelle façon d'exercer ton métier, enfin que ça peut être une façon en tout cas de l'exercer.
Ça peut être complètement une façon d'exercer mon métier en fait. Je prenais tellement de plaisir à le faire que la fatigue je la sentais pas, que les heures je les sentais pas s'accumuler et je prenais tellement de plaisir à le faire que je me disais oui, je suis faite complètement pour ça. L'idée que j'avais de me dire qu'est-ce qui me plaisait dans la cuisine véritablement, je le retrouvais là-dedans. Ce que j'avais perdu en travaillant en restauration classique, en brigade, quoi. C'est ce que j'avais perdu.
Et petit à petit, ben, ça devient plus gros.
Ouais, tout à fait. Entre mon apprentissage, mon CAP de cuisine qui s'était assez mal déroulé et la création de Chicken, je me suis essayée à l'événementiel culinaire, au fooding, voilà, et c'est là que j'ai rencontré Marie. Donc coup de foudre amical tout de suite, coup de foudre professionnel également. On a travaillé 3 mois ensemble sur deux ou trois événements.
Ouais, toi, tu n'es pas resté longtemps. À chaque fois, j'ai l'impression que c'était long, mais
parce que je suis hyper marquante.
Voilà.
Parce que je faisais énormément de blagues, travaillais très peu. Non, je rigole. Je travaillais.
Mais ouais, c'est en partant, donc après ces expériences événementielles, en partant du fooding, c'est là que t'as commencé CBL et...
Oui,
et,
totalement. Ça a commencé comme ça. Au début, je faisais un peu les deux, parce que les premiers événements qu'on m'a demandé, j'étais encore au fooding. Donc c'était sur mes week-ends, c'était en fin de journée, voilà. Je travaillais de nuit, je faisais ma petite popote dans mon coin, dans ma cuisine. J'allais livrer ça sur les événements le matin, le week-end, et puis après, voilà, je faisais ma semaine au fooding un peu plus classique. Et ce qui était très intéressant pour moi au fooding, je m'occupais plus de la partie chef. Donc sur les événements, je bookais les chefs, je réceptionnais leurs recettes, je faisais leurs commandes et je parlais beaucoup avec eux et j'ai parlé avec pas mal de chefs dont je me souviens de Fabrizio Ferrara qui m'avait dit et qui m'avait parlé de lui qui avait commencé à Paris à faire des buffets comme ça avant de monter son resto. Et surtout dans la mode et qui m'avait dit tu vois oui c'est une bonne façon aussi de travailler en cuisine, c'est hyper intéressant, tu rencontres des gens tout le temps, tu changes tes menus et aussi en partageant avec d'autres chefs mon expérience un peu malheureuse en brigade, j'ai vu qu'il y avait d'autres façons en fait de travailler, qu'il y avait d'autres mentalités, que ce que j'avais vécu n'était pas le modèle répété dans les autres restaurants. Donc ça m'a un peu aussi redonné envie de faire ce métier, quoi.
Et à quel moment CBL, donc qui sont tes initiales, passe à Chicken Bacon Lettuce?
Alors, parce que tout simplement, je n'ai pas réfléchi à un nom de société quand j'ai monté cette affaire. C'est vrai que j'ai monté ça vraiment, c'est l'opportunité qui a fait que j'ai monté Chicken. Et vraiment, j'avais pas envie en fait de mettre mon nom. J'avais pas envie d'être Claire Berger de France, chef indépendant, parce que je me voyais pas du tout faire l'aventure seule. Je ne me voyais pas spécialement comme chef de cuisine à part entière, j'avais plutôt l'envie de monter une marque, une identité, de créer des moments, de créer des événements, mais pas forcément de mettre mon nom sur cette entreprise. Et en fait, il a fallu un moment monter une boîte, hein, déposer des statuts. J'avais vraiment pas d'idée de boîte, de nom, de quoi que ce soit. Donc j'ai mis mes initiales en CBL, EURL. Et le nom est venu ensuite. Chicken Bacon Lettuce, c'est un peu référence à ce que j'ai vécu à Londres par rapport au fait que les femmes, on nous appelait pas mal comme ça. J'avais un de mes collègues qui disait chicken. Et mes initiales réfèrent à un sandwich du McDonald's qui s'appelle le Chicken Bacon Onions. Donc
Donc c'est vrai que pas mal de mes amis me faisaient la blague parce que je suis quand même la première à faire des sandwichs en fin de soirée. Et Chicken Bacon Lettuce, c'est le club sandwich. Donc c'est le Chicken Lettuce Under Bacon, le club, qui se retrouve aussi dans les hôtels comme dans les petits restaurants. Et ce que j'aimais bien là-dedans, dans cette idée de sandwich, c'est un aliment qui parle à tout le monde et qui se retrouve, comme je le disais, autant dans des grandes maisons que dans des petites maisons. Donc un traiteur qui s'adapte un peu à tous les budgets, ça me plaisait bien.
Donc petit à petit, tu deviens un vrai traiteur et plus une chef indépendante en tout cas.
Bah, le traiteur et le mot traiteur est pas très bien connoté, hein. Je pense y a un truc qu'on voit avec le traiteur où c'est le traiteur intraitable avec la bouchée qui sort du frigo et qui pue le frigo, quoi, clairement. Donc oui, il y a un côté un peu de prendre le pied de nez de ça et de dire qu'en fait non, on peut faire du traiteur et on peut le faire très bien avec des produits frais, c'est de saison, raisonné, en gardant une image plus fraîche, plus jeune, hein, qui sorte un peu de la verrine et de tout ça. Et oui, le côté chef est un peu parti, un peu sorti de l'idée, dans le sens où je me suis un peu plus vue. Enfin, je pense qu'on se voit un peu plus avec Marie maintenant comme une agence ou un label de chef, quoi. On a plein de chefs talentueux qui travaillent avec nous, et l'idée c'est que ils travaillent pour Chicken Bacon Lettuce, qui est une jolie marque et qui représente des clients qui sont enfin, qui travaille pour des clients prestigieux, donc c'est plutôt cette idée-là. Je sais pas ce que t'en penses.
En tout cas, c'est pour ça que t'as appelé Marie.
À la rescousse.
À la rescousse, non.
Totalement.
Tu lui as proposé de t'assister.
Oui. En fait, au bout d'un an, je faisais, j'avais complètement arrêté le fooding et je lançais cette activité à temps plein. Donc, je faisais autant la cuisine que les devis, que la production, que le service sur place, que la facturation, que tout ce qui mène à une société. Et je le faisais bien, jusqu'à ce que ce soit trop. Et que du coup, ça devienne plus gérable, en fait. Donc, avec Marie, on se voyait encore très souvent. Et il est vrai que je ne me voyais pas m'associer avec quelqu'un d'autre qu'elle. On avait travaillé ensemble et on se complétait. On se complète toujours très très bien. C'est-à-dire que chacun a son pôle de compétences et c'est agréable de travailler en équipe avec quelqu'un qui a déjà la même implication, la même force de travail, la même envie. Et qui avec qui on se comprend et on a la même vision. Donc oui, j'ai proposé à Marie de s'associer avec moi, c'était un peu comme une demande en mariage.
Et elle a dit oui.
Non, elle m'a fait poireauter 3 mois.
Mais
elle a fini par dire oui.
C'est quoi un traiteur qui en a dans le buffet?
Je laisse Marie dire un
peu. Allez, Marie, à toi.
Un traiteur qui en a dans le buffet, je pense que c'est un traiteur déjà qui sait s'adapter à beaucoup de choses, qui a l'écoute de ses clients et qui travaille avec des bons produits. Et c'est un peu de se dire que c'est un peu comme si on l'avait fait, quoi. C'est de recevoir un peu comme si quelqu'un l'avait fait directement, quoi. Sauf que nous, on le fait avec le petit twist qui va bien, avec la petite chose. Et je pense qu'il y a un aspect très convivial là-dedans, un aspect humain, et de faire des événements vraiment sur mesure où nous, en tout cas, on y met du cœur, du plaisir, et on essaye de faire en sorte que ça se voit et que ça se ressente, que ce soit au goût, que ce soit la manière dont on installe les choses, la manière dont on sert, tout ça avec une exigence qu'on s'impose et qu'on aime bien faire. Mais pour nous, un traiteur qui en a dans le buffet, oui, c'est vraiment un traiteur, on va dire, exigeant, mais familial et humain.
Vous avez complètement modernisé, c'est l'image du traiteur, en tout cas, l'image qu'on pouvait en avoir il y a une dizaine d'années.
Oui, on a essayé de faire en sorte qu'effectivement, de sortir des gros traiteurs qui ont leur formule, qui nous vendent un prix par personne, qui arrivent et on n'a jamais la personne à qui on a eu au téléphone. On arrive avec des serveurs qui arrivent et qui connaissent pas finalement leurs clients. Donc, on a essayé de se dire que d'en faire quelque chose
d'assez humain au final.
Ouais, d'assez humain et où vraiment on essaye de d'accompagner le client du premier contact jusqu'à la fin de la prestation, et ça nous est souvent arrivé de prendre nos clients dans les bras parce qu'ils étaient trop contents et que ce soit tant pour du professionnel que pour des particuliers aussi.
C'est ce que j'avais demandé. Aujourd'hui, vous faites aussi bien des buffets pour des shootings, la mode, fashion week, tout ça, mariage aussi.
Exactement. On a l'aspect pro, ce qu'on appelle plus catering pour les défilés, pour des shootings photos, etc. Et après, on a un aspect plus particulier où on fait des mariages, tout ce qui est fête de vie, des moments un peu moins drôles aussi pour les particuliers comme les enterrements. Mais on essaie de garder un peu cette diversité-là qui nous permet d'avoir des relations aussi différentes avec les clients et de s'amuser sur différents formats. C'est important pour notre cuisine de ne pas faire tout le temps la même chose. Et même pour nous.
Et toi, Marie, l'aventure, donc quand Claire t'a demandé en mariage professionnel.
Maintenant, ça fait 7 ans.
L'aventure entrepreneuriale, en tout cas, te disait.
J'en avais toujours rêvé. Ah. Donc je pense que j'étais au fooding. Je pense que j'avais fait le tour entre guillemets un peu de ce que j'avais fait là-bas et que j'avais besoin d'un nouveau projet. Et c'est vrai qu'avec Claire, c'était un peu un coup de foudre amical professionnel, comme elle dit. Et on se complète. On se complétait beaucoup, on se complète toujours beaucoup, et me lancer là-dedans avec elle, c'était un peu redémarrer quelque chose de nouveau, sachant qu'elle avait déjà pas mal avancé au bout d'un an, donc c'était aussi structurer un peu tout ça, quoi, il y avait pas mal de choses à faire, et puis aussi, j'étais hyper contente parce qu'au début, j'étais en cuisine tous les matins avec elle, et ça, pour moi, remettre un pied dans la cuisine et cuisiner, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et c'était très très chouette. Quoi, quand on était toutes les deux, j'ai adoré cette époque-là.
Vous étiez que deux au début ?
Ouais, on était que toutes les deux. Ouais.
Ah ouais, je sais pas, je pensais qu'il y avait quand même d'autres personnes. J'avais pas.
Non, pendant 2 ans.
Ouais, maintenant ça a grossi, vous êtes combien ?
Maintenant, on est 15. 15 à temps plein. Et après, on travaille sur les périodes de rush avec pas mal d'extra en cuisine et en service.
Là, depuis notre métier, il a complètement évolué. Hein. Complètement. C'est parti d'une petite entreprise où en final on faisait toutes les deux la cuisine et les propositions de menu et les devis et les événements et le service à deux dans notre petite Polo de l'année 96, élue meilleure voiture de l'année. On pense beaucoup à cette Polo très souvent où on faisait donc nos livraisons. On a beaucoup évolué. Maintenant on est une quinzaine et on a appris à devenir des chefs d'entreprise.
Appris.
Ce à quoi on n'était pas vraiment préparé à la base.
On apprend.
On apprend à être chef d'entreprise. C'est oui, tous les jours.
Donc vous répartissez les choses comment aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore cuisine et back-office, tout ce qu'il y a derrière, ou vous vous répartissez les choses différemment ?
Non, c'est toujours un peu ça. Hein, c'est toujours dans cette idée, là. Moi, je gère au quotidien mes chefs de cuisine. J'établis les menus pour les propositions avec, bien sûr, leur collaboration et leurs bonnes idées. Et les miennes aussi, parce que j'en ai. voilà, tous les jours. Et ensuite, je travaille plus sur l'identité de marque, la communication avec Chicken.
Moi, je m'occupe plus, on va dire, du bureau. Ça a toujours été un peu cuisine-bureau. Du coup, je gère plus les chefs de projet, puisqu'on est maintenant 3 chefs de projet, avec des spécialités chacun un peu. Il y en a qui gèrent plus les particuliers, d'autres plus la mode, d'autres plus les journées presse, quoi, les différents formats. Donc moi, je chapeaute un peu tout ça et je gère un peu plus tout l'administratif avec Claire aussi, compta, toute la paperasse qu'on adore quand on devient chef d'entreprise. Voilà, et Claire aussi a pris le pôle RH et recrutement, parce que mine de rien, c'est un vrai taf. On travaille plus, on va dire, ensemble maintenant sur plus tout ce qui est structuration, développement, etc., qui étaient moins les sujets de départ.
Ouais. Où ça venait un peu tout seul et...
Oui,
et
où c'était plus facile. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus là-dessus.
C'est plaisant aussi. Enfin,
c'est pesant.
C'est plaisant.
C'est plaisant. C'est pesant et plaisant, d'ailleurs. C'est plaisant parce qu'il faut toujours se projeter, trouver de nouvelles idées. Et puis, on a envie que notre équipe soit aussi dans un confort de travail. Du moins, on essaye parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, d'essayer aussi qu'ils soient bien chez nous et qu'ils évoluent chez nous et que de toute manière, on ne fait pas de la cuisine quand on est débordé et quand on n'a pas envie d'en faire. Donc, faut les mettre bien aussi pour que tout sorte et que tout soit bon.
En tout cas, il y a une bonne ambiance quand on vient dans les cuisines.
Bon, on espère.
La musique. Et c'est marrant parce que je vois que, enfin, quand, donc j'ai eu l'occasion de venir deux, trois fois dans les cuisines. On voit que vous passez aussi, vous aimez, enfin, vous êtes pas genre dans le bureau à ne pas descendre du bureau. Vous aimez bien passer, tâter à l'atmosphère.
Ouais. Oui, on aime bien. Après, c'est marrant parce que ça, on avait des locaux. Ben, dans nos anciens locaux, en fait, le bureau était un peu quasi dans la cuisine, juste séparé par une cloison. Du coup, on faisait beaucoup d'aller-retour en cuisine, etc. Et on essayait de communiquer un maximum. On a aussi beaucoup de changements de dernière minute. Donc, on est obligé de communiquer beaucoup avec la cuisine pour des rajouts de personnes, des régimes alimentaires spécifiques, la veille pour le lendemain. Et c'est vrai que ce contact-là et d'être proche d'eux et de tout le temps aller mettre son nez aussi, c'est... Ça, je pense que ça nous lâchera jamais, entre guillemets, quoi.
Je vous imagine bien avec un micro qui donne du bureau sur la cuisine.
On y a pensé.
Changement à la 12. maintenant, il y a des escaliers.
J'aime bien sentir l'ambiance, être aussi un peu en cuisine avec eux quand je peux l'être. C'est-à-dire que c'est quand même mon métier à la base aussi d'être en cuisine, de toucher les aliments et tout, et voilà, d'être au contact du produit, de cuisiner, quoi. Je suis cuisinière, donc sûr qu'il y a des moments où ça me manque vachement. Donc j'aime bien rester en cuisine, regarder, voir ce qu'elles font, mettre la main à la pâte, fais gaffe, ton noël bout, ton chocolat il déborde, voilà, mariser deux trois trucs, mettre en poche des choses, façonner. Non, j'aime bien garder un petit peu cette main là aussi en cuisine. C'est sûr que j'ai moins le temps de le faire. Dès que je peux le faire, je le fais, en tout cas. Dès que je peux aller sur des prestats prendre un dîner et envoyer un dîner, je le fais. Dès que je peux, sur des grosses périodes de rush, aider en cuisine, parce que je sais que j'ai un peu moins de boulot au bureau parce que tout est booké, bah j'essaye de l'être au maximum et d'avoir une bonne relation avec mes chefs. que j'embrasse d'ailleurs. Non, mais qui sont en plus de ça, qui sont des gens ultra talentueux. Et qui m'apprennent énormément, pour lequel j'ai énormément de respect pour leur travail, pour leur implication, pour la passion qu'ils mettent dans ce qu'ils font. Et ouais, je suis assez fascinée, donc j'aime bien être autour de gens fascinants.
Bon, pour être traiteur, il y a un truc quand même, c'est qu'il faut être bon partout, il faut tout connaître, cuisine, boisson, cocktail, art de la table, déco, fleurs, DJ parfois aussi.
On vient de booker un DJ, qui est notre chef de projet, qui fait DJ à ses heures perdues, donc ouais. C'est assez pratique. Ouais, il faut te connaître, c'est là où c'est passionnant aussi, c'est que ça englobe pas mal de choses. Je sais qu'avec Claire, on adore les projets de certaines marques qui vont nous mettre plein de contraintes de déco, faire en sorte que tant la food, que l'art de la table, que le style des serveurs, que les tenues des serveurs soient cohérentes avec l'ensemble de leurs événements. Mais ça, je veux dire, quoi, moi, c'est une passion de l'événementiel, donc je me suis bien formée au fooding pour ça, donc c'est très très chouette quand on a ce genre de demande de A à Z. Et oui, ça demande pas mal de connaissances, mais c'est ultra enrichissant.
Et faut se renouveler aussi. Vous êtes tout le temps en train de, ce que tu disais tout à l'heure, vous faites du sur-mesure, donc vous êtes tout le temps en train de chercher, de créer, de...
Ouais, de trouver de la vaisselle qui va bien, parce qu'il y a des effets de mode, il faut pas être démodé, de chercher des nouvelles recettes aussi, parce que...
Il faut pas être démodé, pareil. C'est vrai que la cuisine a évolué énormément. Tout le temps, il y a des choses qui étaient à la mode il y a deux ans qui ne le sont plus spécialement. Après, il y a toujours un décalage entre ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, les foodies et les non-foodies. Je vais beaucoup au resto, je lis beaucoup de bouquins de cuisine et je suis tout le temps avec des cuisiniers qui ont partout, qui ont des idées tout le temps. Donc ça, c'est hyper inspirant. Mais oui, il faut tout le temps se renouveler. Il faut garder l'œil sur ce qui se fait et avoir une exigence totale sur les produits qu'on rentre, sur nos fournisseurs, sur ce qu'on envoie, et pour essayer de satisfaire au mieux nos clients et puis aussi nous satisfaire nous, quoi, parce que on fait ça pas pour la gloire, enfin si peut-être, mais surtout par passion, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que si vous avez, enfin, il faut évoluer avec son époque.
Tout à fait.
Perdurer. Allez, on va passer à l'aller-retour. Votre plat préféré de tous les temps? Claire n'a pas révisé.
J'en ai plein.
Allez, le premier qui te vient.
Je crois que le premier qui me vient, moi, c'est des plats de chez moi. Donc, ça va être une dorade à l'espagnole avec l'ail frit, vinaigre de Xérès. Ouais, c'est des choses comme ça. J'ai une passion pour les faillots. Tous les faillots, tous les grains, les mojettes, les navettes, enfin les mojettes, les flageolets, les berlottis, les cocos de Paimpol, enfin tout ça, j'adore. Donc voilà, les viandes rôties, très très longtemps. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses. J'aime énormément manger, donc j'arrive pas à en choisir qu'un.
Moi, c'est les pâtes. Toute leur sauce, mais j'ai une passion aux pâtes. C'est très simple, mais les pâtes bien faites, bien cuites, avec une sauce, c'est mon plat préféré. Je pourrais pas m'en passer dans ma vie.
Votre livre de recettes fétiches. Alors là, Claire, je sens qu'elle va me dire, j'en ai plein, j'arrive pas à choisir.
Ouais, c'est un peu compliqué de dire quel est mon livre de recettes fétiches parce que j'en ai beaucoup. Il y en a que je fais des allers-retours entre plein un peu tout le temps. Il y a des choses assez simples. J'aime bien aller regarder, par exemple, le bouquin de Bocuse pour des bases. Les bases des sauces, les bases de tout. J'aime bien aller voir ça. Après, c'est vrai qu'il y a tout le temps des nouveautés, la cuisine végétale. Je sais pas. J'aime les livres de Yota Motolenghi aussi, qui sont un peu plus connus maintenant. J'en ai pas vraiment un en particulier. Attends, je regarde chez toi parce qu'il y a tout.
J'en ai pas mal au bureau aussi.
J'ai essayé de trouver. J'avoue que je regarde un peu tout. J'ai aussi plein de magazines culinaires que je reçois, des magazines américains aussi. Donc,
tu vas chercher un peu l'inspiration partout.
Oui. Donc je pourrais pas vraiment en donner un seul. Mais c'est vrai que quand je cherche une technique, j'aime bien aller dans les vieux. Voilà.
Marie.
J'avoue que je suis un peu comme Claire de ce côté-là. J'en ai pas forcément de fétiches. J'en ai une petite collection à la maison que j'adore feuilleter, regarder. C'est un peu mon moment de détente, tout ça. Et trouver plein d'inspirations là-dedans et trouver des choses dont on pensait, auxquelles on pensait pas et d'essayer. Mais j'en ai pas un en particulier de fétiche non plus.
Bien, moi j'aime beaucoup les revues, enfin les revues culinaires ou même les ouvrages un petit peu mi-illustré, mi-photographique, enfin avec des recettes. Et je sais que je suis abonnée à la revue que sort Marlow & Son à New York, qui en gros font des reportages photographiques, donnent des recettes également, donnent des astuces sur des produits. Il y a autant d'illustrations que de la photo, que des récits. C'est le Diner Journal, voilà, de Marlow & Son.
Le dernier ingrédient découvert.
Le kombawa. Non, c'est une blague. C'est une blague.
Alors, le dernier ingrédient que j'ai découvert, c'est le psyllium. J'ai appris il y a peu que j'étais intolérante au gluten. C'est une blague. C'est une blague. Ma vie est un sandwich. Ma vie est du pain. Le nom de ma boîte, c'est un sandwich. Enfin, jamais vu ma vie sans gluten avant... Avant ça, franchement, je sais pas ce que j'ai fait au monde. Ça doit être une question de karma parce que là, c'est pas possible. Donc, j'apprends à vivre sans gluten et j'ai découvert le psyllium qui est vraiment génial pour tout ce qui est pain sans gluten. Parce que oui, on peut faire du bon pain sans gluten. Ça, je ne savais pas non plus que ça existait. Pour moi, c'était une brique imbouffable avec plein de graines qu'on te vend, qu'on essaie de te toaster et au final, quand t'en manges, t'as l'impression d'avoir bouffé un gâteau entier. Enfin, que ça gonfle dans ton ventre, enfin, que ça fait un effet pas possible. Et le psyllium, en fait, c'est cette petite graine. C'est un plantain, je crois. C'est une graine qui est hyper riche. Et quand tu l'apportes dans tes pâtes, dans tes pâtes à pain, dans tes pâtes de gâteau, ça t'apporte cette élasticité que tu peux retrouver dans le pain, dans le vrai pain. Dans le gluten, quoi, avec le blé. Donc c'est super. Alors oui, je suis pas encore assez branchée naturopathie, ce serait peut-être la deuxième étape de ma transformation. La deuxième étape de ma transformation, je sais pas encore, mais en tout cas, ça a plein de vertus pour
pour l'intestin, pour tout ça. Je vais pas faire un portrait là-dessus parce que vraiment j'y connais pas grand chose. Peut-être que tu me réintervieweras pour un podcast de genre avant ma vie c'était le gras et le jambon. Maintenant, c'est le yoga et le psyllium. Je ne sais pas.
Le truc le plus trash que vous ayez mangé. Alors là, j'ai l'impression que vous avez un exemple.
Non, c'est qu'on a beaucoup ri. C'est que quand on a lu tes questions hier, j'ai dit le dernier truc le plus trash que j'ai mangé, je crois que c'est une raclette chez Julie. Pas d'appareil à raclette.
Effectivement, petit problème de problème d'appareil. Mais finalement, elle était très bonne.
Mais elle nous a fait beaucoup.
Bon, votre dernier meilleur repas. La raclette chez moi.
Évidemment, ça va avec.
Non.
Ça faisait longtemps que j'avais pas goûté la cuisine de Simone Tondo. Et en allant chez Racine, j'ai passé un super moment. C'était délicieux. Et effectivement, ce sera sûrement mon dernier souvenir gluten. Donc, je m'y accroche.
Une technique de cuisine découverte récemment.
La fermentation, c'est quelque chose de très très intéressant. J'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place dans la cuisine d'aujourd'hui. On a bien envie de s'y mettre aussi.
C'est pas une mode, non?
Non, je pense pas que ce soit spécialement qu'une mode en fait. C'est une nouvelle façon aussi d'assaisonner des plats et de cuisiner. Donc, non, je pense pas que ce soit qu'une mode justement.
Le chef ou la chef à suivre?
Je vais pas faire un truc un peu corporate, mais j'ai des chefs hyper talentueux en cuisine. Je pense à Manon, je pense à Émilien, je pense à Apolline, je pense à Justine, je pense à des gens qui sont aussi passés chez nous, je pense à Zoé, je pense à Lucie, je pense même aux tout jeunes qui débutent aussi chez nous. Je suis fascinée par cette envie d'apprendre, par cette passion qu'ils ont de la cuisine, de ce plaisir du produit. Et de cette force et de ce courage, parce qu'il faut être un petit peu fou pour travailler autant. Mais c'est que voilà, je suis hyper admirative des gens passionnés, et il y en a plein. Et je pense pas mal à mes chefs là.
Votre musique pour cuisiner?
Si tu savais ce qui passe dans nos cuisines parfois, il y a beaucoup d'Aya Nakamura quand même. non, il y a de tout, il y a de tout ce qu'on écoute en fonction des chefs, en fonction des humeurs, en fonction des horaires aussi, ça change. Parfois même en fonction des plats. J'aime bien quand je descends en cuisine et qu'il y a des lasagnes en préparation, qu'il y a du Lucio Battisti. ça me plaît énormément. Mais non, c'est vrai que des musiques pour cuisiner, il y a un peu de tout. Ça dépend des humeurs aussi. Enfin, le matin, je sais qu'à 5h, 6h, on écoute France Inter, on écoute la radio, on écoute Augustin Traquenard pas mal, oui. vers les 10h du matin.
J'étais là la dernière fois vers 9h30.
Ouais, on écoute Augustin Traquenard. On peut écouter aussi Fabrice Drouel à des moments, donc il n'y a pas toujours de la musique. Voilà. Moi j'aime bien Paloma de Caetano Veloso. Ça me calme. Voilà. J'aime bien cette musique par exemple.
Un compte Instagram que vous aimez suivre?
Votre compte, il est bien. Le compte de Caitlin, il est chouette aussi. Caitlin Reinhardt, j'aime bien parce que c'est pas que cuisine, c'est aussi lifestyle. C'est assez beau, assez épuré. J'aime bien ses photos. Je trouve ça assez joli. Dans un autre genre, j'aime bien le compte d'Elvira aussi Masson parce que il y a des petites recettes, des choses comme ça.
Tu cites toutes tes copines, quoi. Non. T'as raison.
Alors,
qu'est-ce
que je vais dire? Il y a des chefs new-yorkais, des trucs que j'aime bien. J'aime bien Ancho Vitrov. Vous connaissez Ancho Vitrov?
Pas du tout.
Alors, c'est un chef new-yorkais qui a comme vrai nom. Je sais même pas, tu vois. C'est ça le truc. C'est Trevor Joyce. Home cook. C'est un chef à domicile. Et j'adore ses recettes. Il y a pas mal d'agrumes, il y a des anchois un peu partout. Je chope pas mal d'inspi là-dedans, chez lui. Ouais, j'aime bien lui.
Ça représente quoi pour vous la cuisine aujourd'hui?
ça représente beaucoup de choses. Je pense que ça représente le partage. Bon, très 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 classique, hein. Et je pense qu'aujourd'hui c'est assez essentiel parce que la cuisine c'est là où on se retrouve, c'est là où on passe de bons moments. Mais je pense que ça rassemble. Je sais pas, on est dans une période quand même un peu compliquée, je trouve, post-Covid, tout ce qui se passe autour du monde. Et je trouve que la cuisine, ça, c'est un peu de l'amour qu'on peut apporter en ce moment. Tant qu'on la prépare, qu'on va acheter ses ingrédients, on y met du cœur, on prépare les choses, on rassemble les gens. Et je trouve que, pour moi, je vois pas ma vie sans ça, et je trouve que ça apporte du bien-être et que ça fait du bien. Voilà.
Je suis complètement d'accord avec cette réponse. La cuisine, oui, aujourd'hui, c'est déjà pour moi, c'est pas spécialement un art comme on pourrait le dire, mais en fait, c'est une pratique qui est en constante évolution. Et je pense qu'il y a peu de métiers où t'as pas l'impression d'avoir fait le tour, en fait. Souvent, on parle d'ennui au travail, ce genre de choses-là, de tâches répétitives, d'avoir fait le tour. J'ai l'impression qu'en cuisine, il n'y a pas cette sensation-là.
Vous êtes donc une quinzaine aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, je crois, dans votre cuisine.
Il y en a beaucoup. Il y en a eu à 100%. Maintenant, les choses ont évolué. Non, maintenant, ça commence un peu à s'équilibrer. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce que finalement, on se complète, que ce soit tant dans la cuisine qu'au bureau, qu'en production. Donc ça a été le cas, et je pense qu'au début on a beaucoup aussi engagé des personnes qui nous ressemblaient un peu sur les mêmes parcours, qu'on avait besoin d'avoir des gens qui nous ressemblaient pour avancer, et je pense qu'aujourd'hui on a besoin aussi d'avoir des différences pour évoluer, et le fait d'avoir entré des garçons entre guillemets, je pense que ça a fait évoluer les choses aussi, et d'avoir des profils un peu plus différents, donc on est bien content d'arriver plus à l'équilibre aujourd'hui. Exactement, maintenant c'est plus équipe 100% féminine, mais on est plus pour la parité, voilà.
En tout cas sur les valeurs, sur ce que vous voulez que Chicken Bacon Lettuce soit, vous êtes très attentive à l'ambiance à l'ambiance de la boîte.
Oui, on essaye de la faire vivre et que les gens se sentent bien. On pense que la bienveillance, ça fait évoluer aussi tout le monde et ça permet aussi de fidéliser. Et je pense que quand on veut, nous, que nos clients soient satisfaits, il faut que derrière, notre équipe le soit en premier. Donc, on essaye en tout cas d'avancer là-dedans. Je pense que on a évolué, maintenant on est 15, donc c'est différent, et on a une gestion aussi du personnel qui est plus importante qu'avant, et qu'on a toujours envie de rester un peu à cette taille humaine, et qu'on a toujours l'impression que c'est plus gros et que ça nous dépasse, et qu'on a envie aussi de rassembler les gens pour quelque part se dire bah, on a évolué mais on reste quand même une petite famille professionnelle, et faire en sorte que ça se ressorte tant dans notre cuisine que dans nos événements, dans leur mise en place, dans nos équipes de service, et que les gens sentent qu'on est exigeant, mais qu'on a aussi exigeant, mais qu'on a du service convivial derrière, qu'on a une cuisine qui est conviviale mais bien faite, et qu'on sait faire pas mal de choses, et que ça, c'est notre équipe qui nous fait évoluer là-dessus. Donc la bienveillance, ça reste ultra important pour que tout le monde évolue et avance ensemble.
Oui, totalement, parce que, bah, comme disait Marie, c'est vrai qu'au début, on a été entouré de, enfin, on a cherché à s'entourer de gens qui nous ressemblent. Et moi, j'ai été particulièrement marquée par des expériences en restauration qui se sont mal passées, avec des ambiances en cuisine qui étaient toxiques. Je pense qu'il faut, et qu'il y a de plus en plus de patrons, de chefs de cuisine qui ressentent ça et qui ont envie de changer les codes de ça. On a vu à une époque une grosse crise du personnel, et même encore maintenant en restauration. Faut pas oublier que c'est quand même un métier très très dur et qui est sous-payé. Faut le dire aussi, par rapport au nombre d'heures qui sont faites et des conditions de travail qui sont catastrophiques quand on travaille en coupure et que on n'a même pas le temps de soit manger, soit rentrer chez soi pour dormir et qu'on enchaîne sur un autre service, c'est quand même des conditions de travail qui sont très très dures. Donc oui, il faut être fou et passionné, mais il faut pas non plus s'oublier là-dedans. Nous, on a envie d'offrir les meilleures conditions à nos salariés. On travaille tous les jours pour le faire. On a un contexte économique aussi qui est fragile et qui est compliqué, mais vraiment dans tout ce qu'on fait, en tout cas je pense tous les jours, et dans toute l'implication qu'on veut mettre dans notre travail avec Marie, dans nos événements, on pense beaucoup à notre personnel, et on pense au max, enfin on pense vraiment que pour pouvoir faire de beaux événements,
Il faut un personnel épanoui. Sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible et le modèle de chicken ne tient pas et l'identité de marque ne tient pas. Donc oui, on en apprend tous les jours. On apprend à être patronne, ce à quoi on n'était pas du tout préparé. Mais en tout cas, on essaye de le faire avec cette conscience que c'est un métier compliqué, donc il faut donner des bonnes conditions de travail.
Qu'est-ce qui vous rend le plus fière ?
Moi, profondément, ce qui me rend assez fière, c'est de me dire qu'on est arrivé à monter un système économique aussi, puisque c'est un système économique, cette entreprise, et qu'il y a 15 personnes, et que tout le monde arrive à bien travailler, à bien s'entendre, et qu'ils arrivent à vivre aussi, que nous, on arrive à en vivre, qu'eux arrivent à en vivre. Et je trouve ça assez... ce microcosme économique, je le trouve fascinant, en fait. Et de se dire, on arrive à faire vivre des gens, entre guillemets, par notre travail, par leur travail... à chaque fois, je trouve ça fascinant d'y arriver et de se dire ok, je me lève le matin, en fait c'est pas que pour ma gueule, c'est pour aussi que tout ça fonctionne, et ça donne une énergie assez incroyable.
Ouais, je pense que c'est ce qui nous donne le plus d'énergie, en fait, c'est de se dire il faut que tout ce petit équilibre et tout ce petit système marche et que tout le monde puisse vivre de ce travail. Donc ça c'est sûr. Je suis particulièrement fière aussi du fait que nous ayons pu déménager dans des locaux, qu'on ait pu faire ce laboratoire dans cet espace. On a repris une imprimerie, en fait, une ancienne imprimerie de 400 mètres carrés. On en a fait notre laboratoire de cuisine et nos bureaux. Donc ça, c'était quelque chose qu'on s'était toujours dit avec Marie, c'était notre priorité. On voyait que ça comme échéance, le fait d'avoir nos propres locaux, notre labo. Donc on a un peu tout fait pour que cet investissement puisse se réaliser. Donc ça, j'en suis particulièrement fière. Surtout que ça offre un cadre de travail qui est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc ça c'est génial. Et puis oui, la fierté de mon équipe, de cette équipe qui nous rejoint, d'avoir des gens de plus en plus talentueux, curieux, qui ont envie de venir travailler avec un traiteur, le traiteur intraitable. Non, pas du tout. Qui ont justement compris que on pouvait avoir une autre image que le traiteur classique, et qu'on pouvait faire une cuisine digne de très bons et très grands restaurants pour un traiteur. Voilà.
Qu'est-ce que vous kiffez le plus au quotidien dans votre travail ?
Je crois que moi, c'est aller sur les événements. Parce que j'ai toujours cette petite boule au ventre qui m'a jamais lâchée avant d'y aller, qui me lâchera finalement jamais au bout de 7 ans, que ce soit un événement pour 10 personnes qu'un événement pour 3 ans. Et que je pense que c'est un peu comme des papillons dans le ventre où on a tout préparé, où il faut tout installer, où on serre un peu les dents avant d'y aller parce qu'on est stressé de l'imprévu qui arrive à chaque fois. Mais je crois que ouais, c'est prendre le camion et aller sur les événements.
Oui, je pense qu'il y a cette idée de partir sur les événements complètement. J'y vais un petit peu moins que Paris, mais quand j'y vais sur des animations où je donne des dîners, où je cuisine, hein, ce genre de choses. Moi, ce qui me rend particulièrement fière, c'est quand j'ouvre les frigos au labo, que je vois que tout est bien rangé, que tout est laser, comme on dit, que mes cuisiniers arrivent à concrétiser des idées que je peux avoir et les améliorer et en mettre aussi leurs pattes là-dedans. Enfin, c'est en fait moi ce qui m'anime le matin, c'est de voir ce qui sort de mes cuisines, quoi. Clairement, c'est ça que je trouve le plus fou. Donc je suis ravie quand j'arrive le matin, que j'entends de la bonne musique en cuisine, que je les vois tous s'affairer, quand je monte au bureau, que je vois que les chefs de projet sont au taquet avec leurs clients, hyper satisfaite, hyper fière et hyper satisfaite. Voilà.
Une question pour Claire, quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois ?
Alors chef, c'est un grand mot, j'ai un peu de mal avec ce mot-là, moi. Je pense pas être un, comme je te disais, chef de cuisine. J'ai un peu cette image de l'ego trip du type un peu abusif et toxique dans sa brigade. Donc c'est vrai que j'avais un petit problème avec ça.
Tu te sens chef quand même aujourd'hui ?
Je me sens moteur. Je me sens un super moteur. Non, c'est vrai. Je me sens être un très bon moteur. Je pense que c'est une de mes forces, c'est que je suis quelqu'un de moteur et très enthousiaste. Donc j'ai une équipe autour de moi qui me fait confiance et que je porte aussi. Donc oui, dans ce sens-là, je me sens chef. Je me sens chef de cuisine, moi. au final, en faisant des choses très simples à manger. J'ai pas besoin de faire tout un truc où tu vois, j'ai passé des mille heures en cuisine et de toute façon, j'ai jamais aimé la cuisine trop compliquée, moi. J'aime les petites associations, les petites choses comme ça. Puis je vais être le genre de cuisinière qui va dire c'est bon, hein, ça te plaît? Ça te plaît, hein? Ah ouais. Ouais. Moi aussi, jamais. Donc non, c'est vrai que c'est plus, je me sens plus moteur que chef de cuisine. C'est pas ta réponse.
Je crois que c'est la première fois qu'on fait cette réponse.
Mais ah bon?
J'adore.
Ah bon? Bon, bah en tout cas, c'est comme ça que je le sens.
Et tu te présentes comme ça? Bonjour, je suis moteur.
Non, je suis chef d'entreprise, chef de cuisine, oui, mais c'est vrai que l'appellation.
Tu allais le dire.
Chef de cuisine, j'ai plein de chefs en fait, ils sont tous chefs de cuisine, j'ai une chef de cuisine aussi qui m'aide, moi je suis chef de cuisine aussi parce que on collabore ensemble, on travaille ensemble, mais en fait à tous les niveaux, que ce soit chef de cuisine, second, commis, chef de partie, on est des cuisiniers en fait, on est des cuisiniers et oui, il y a un chef à un moment qu'il faut qu'il prenne la décision et qu'il faut qu'il apporte un petit peu son petit moteur, comme voilà, j'aime bien le dire, mais oui, en tout cas je vois pas une hiérarchie trop installée, quoi, dans une cuisine. Je trouve pas ça très bon, d'ailleurs. Je trouve ça assez néfaste.
Et toi, Marie, tu te présentes comment?
C'est la boss.
Comme la méchante qui dit vous avez trop acheté, trop... Non, c'est pas grave. Qui réconte. Non, je me présente comment?
Chef d'entreprise?
Oui, chef d'entreprise. Je pense qu'à un moment donné... faut arriver à endosser ce rôle. Je pense qu'on l'apprend, comme dit Claire, et qu'on l'assume pas tout de suite, et à un moment donné, il faut l'assumer. Bon, je pense pas qu'on l'assume tous les jours entre que je suis la chef d'entreprise. Je pense pas que ce soit une bonne chose, mais je pense que oui, il y a une certaine autorité à donner. C'est pas vraiment une autorité, c'est des lignes directives pour que tout ça avance. Mais oui, chef d'entreprise, parce que de temps en temps, on n'endort pas la nuit, qu'il y a beaucoup de choses dont on se préoccupe, et que voilà, oui, peut-être plutôt responsable d'entreprise que chef d'entreprise. Je pense qu'avec Claire, on a un peu du mal avec ce mot chef, parce que on voit dans le côté chef le côté un peu négatif du chef qui s'assume, qui est là pour dire les choses sans écouter le reste de son équipe. Ouais, je pense que c'est plus responsable d'entreprise. On est responsable d'une structure et on veut que tout le monde avance ensemble dans la bienveillance et en étant à l'écoute des autres.
Vous aviez l'idée d'ouvrir un lieu. Enfin, je sais que ça vous a traversé l'esprit à plusieurs reprises. Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Ça nous traverse toujours. Ça nous traverse toujours. On est des moteurs, mais des moteurs assez lents. On est des bons petits diesel qui mettent du temps à chauffer. Non, il y a des choses sur lesquelles on avance par étapes avec Marine. On s'est toujours dit, au début, on a commencé le traiteur, effectivement. On a eu cette opportunité de travailler et de tout de suite travailler beaucoup. Notre priorité, c'était toujours d'abord d'avoir un labo de production. Ça a toujours été le cas, quoi qu'il en coûte. Si on avait eu peut-être des opportunités d'ouvrir des restaurants avant, je ne suis pas sûre qu'on l'aurait fait. On s'est posé la question à un moment de faire et un labo dans le même endroit, faire un petit café. Ça s'est pas fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour bien travailler, pour avoir un espace, il fallait qu'on ait un bon espace de travail. Donc, il fallait quand même le trouver. On voulait pas partir de Paris. Donc, trouver 400 mètres carrés dans Paris, ben, il fallait le faire. Donc, c'était vraiment notre priorité, c'était ça. C'est pas une... On réfléchit à ouvrir quelque chose, vraiment, mais on va prendre le temps, encore une fois, de réfléchir à ce qu'on a envie de faire. On le fera pas à la va-vite, on montrera pas le millième concept de... alors, c'est des petites assiettes, je sais pas si vous connaissez le concept. On va réfléchir. On va réfléchir à un truc, on montrera pas un bar à babka, on montrera pas un truc comme ça. On va vraiment réfléchir à quelque chose qui nous ressemble, dans lequel, nous-mêmes, on aurait envie d'aller, quoi. D'y aller tous les jours, en fait. Donc ça va prendre du temps.
Je pense que là, on apprend aussi à déléguer plein de choses qui tous les jours nous incombent et sur lesquelles on n'apporte plus forcément de valeur ajoutée. Donc c'est toujours compliqué de se dire bon ben là, en fait, je suis plus à ma place et ma place c'est de faire évoluer la société. La boîte et de prendre du temps pour monter d'autres projets. Donc là, je pense qu'on arrive à ce travail-là. Donc oui, ça va prendre du temps et on n'est pas encore fixé sur le concept. On se dit que le lieu fera peut-être le concept aussi. Donc c'est dans les tuyaux, mais ça prendra son temps.
Ça y est, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez... voilà, j'ai l'habitude de demander une recette. Donc la petite recette CBL à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Une raclette à la poêle?
Une bonne raclette à la poêle.
Franchement, tu devrais monter ton truc. Déjà, ton podcast s'appelle À Poil.
C'est vrai.
Donc, tu devrais faire toutes les choses, toutes les recettes improbables à faire à la poêle.
C'est vrai.
Tu sais qu'il y a des recettes de gâteaux à la poêle, il y a des raclettes à la poêle. Enfin, franchement, il y a un concept à faire.
Il y a un concept. Donc, Claire, je te demande ta recette à la poêle. Bon, pas à la poêle, si tu veux, comme tu veux.
Moi, je suis toujours dans mon délire un peu de sauce, hein, de vierge, de légumes, de sauce, de parce que je trouve ça, enfin, les petites sauces, j'entends facile, hein, pas les sauces avec des fonds qui prennent 3 heures et des réductions, escoffiées, non, c'est pas l'idée, mais en tout cas, une bonne vierge avec ce qu'on a sous la main, que ce soit des petits pois crus comme cuits, des asperges, faire bouillir les causses et faire un petit sirop, ça peut être complètement une idée, avec des agrumes, toujours beaucoup. Moi, je mets toujours beaucoup d'agrumes dans ce que j'aime bien faire. Réinventer les épices, je trouve ça intéressant aussi. Prendre un zaatar et refaire un petit peu sa façon. Je vois beaucoup de trucs à base de Christ marine et tout, ça peut être intéressant. Les gremolata aussi, y rajouter de la poutargue. Je donne pas vraiment de recettes, en fait, je te donne des tips. Mais c'est aussi comme ça qu'elle est la façon de voir de Chicken Bacon Etus, c'est qu'on n'a pas des recettes vraiment préétablies, c'est des petites choses, c'est des petits twists, c'est des façons d'agrémenter ou d'assaisonner un plat. J'aurais un bon sel, le pimper en faisant dessécher un agrume et le mixant et le rajouter dans le sel, ça peut être chouette. J'aime beaucoup le kombava parce que j'ai vécu à La Réunion, donc c'est des choses que j'aime bien aussi mettre dans mes recettes et les pimper avec. Donc non, ce serait de se faire, en fait, en recette idéale, ce serait de se faire un fond de placard. Alors, je reviens de La Réunion, donc un petit rougaille. Le rougail bringel, c'est un rougail à base d'aubergine, en fait, d'aubergine brûlée. Donc on part du principe un peu comme les caviars d'aubergine, donc une bonne aubergine qu'on fait directement cramer sur le feu du gaz, donc bien tourner dans tous les sens pour que l'aubergine brûle. On pèle tout ça, vous pouvez mettre l'aubergine dans du papier journal, hein, pour essayer d'enlever au maximum la peau de l'aubergine brûlée. Vous récupérez la chair de l'aubergine, à part avec un pilon, ail, une gousse d'ail, je dirais, gingembre, un petit peu de gingembre, je sais pas moi, même pas un pouce, hein, un demi-pouce de gingembre, un demi-oignon, haché. Donc au pilon, vous travaillez ça, l'ail, le gingembre, l'oignon, un petit piment oiseau, de l'huile végétale, plus huile de pépins de raisin, c'est mieux une huile neutre qu'une huile d'olive, du sel, du poivre, un tout petit peu de vinaigre, mais vinaigre blanc, quoi, pas de vinaigre de cidre ni de vinaigre de rérès, vinaigre blanc. Et vous mélangez ça avec la chair de l'aubergine, vous rectifiez l'assaisonnement en sel, en poivre, et là vous mettez un zeste de kombawa, un petit peu. Pareil, on peut mettre des petites billes de citron caviar avec, c'est très très bon. Ça, avec une viande grillée, un poisson grillé, un plat en sauce, c'est délicieux. Typiquement avec un poisson à chair un peu grasse, saumon, thon, voilà, ça c'est bien. Voilà, ça s'appelle le rougail bringel en créole, c'est du rougail aubergine, donc aubergine brûlée. C'est un genre de caviar d'aubergine, mais sans tahini et pimenté. Voilà.
Merci Claire, merci Marie.
Merci Julie.
Vous venez d'écouter Claire Berger-Lefranc et Marie Falcon de Longvial de Chicken Bacon Lettuce, épisode 13 de la saison 5. Pour goûter ce qu'elles ont dans la poêle, vous pouvez commander un joli buffet sur leur site ou les retrouver sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.